Elle n'avait connu que les amis de son frère depuis l'âge de 12 ans. D'abord, présentée comme la petite sœur, puis comme la gamine, ils se mirent enfin à l'appeler Julie quand le dentiste lui retira son appareil dentaire et qu'elle eut besoin de ses premiers soutiens-gorge.
Au début, Eric la tenait à l'écart de ses soirées entre copains, l'acceptant à la rigueur à l'apéro. C'était souvent la même chose. Julie invitait Jessica à dormir, Eric et ses copains occupaient le salon. Le premier étage, le couloir du rez-de-chaussée et la cuisine appartenaient aux filles. La salle à manger était le territoire des garçons.
Elles passaient l'essentiel de leur temps dans la cuisine pour profiter des bruits de la fête. Blagues salaces, rires tonitruants, chansons de Renaud en sourdine, Julie avait presque l'impression d'y être. Le plus croustillant, c'était de s'introduire dans le couloir et de coller l'oreille à la porte pour entendre ce qui se racontait. Des trucs souvent débiles. Alors, Jessica et elle se plaquaient la main sur la bouche, retenaient leur souffle, traversaient la cuisine et sortaient dans le jardin. Le fou rire explosait sitôt qu'elles avaient refermé la porte. Julie savait se montrer créative. Elle fouillait dans le placard à pharmacie de la cuisine avec Jessica. La recette était simple. Sur une planche à découper, disposer une dizaine de cachets. Aspirine, sachet d'aspégique, théralite, prazépam, tout ce qui porte un nom avec des X, des Y et des Z dedans fait l'affaire. Et tout réduire en poudre avec un rouleau à pâtisserie. C'était sniffer pour voir si ça faisait quelque chose. Comme si, genre, on prenait de la drogue. Et on en pleurait de rire, tellement ça faisait rien. Sauf que la narine de Jessica s'était mise à pisser le sang.
La présence de Julie agaçait un peu son frère. Mais Jérémy et les autres convives insistaient pour que leur hôte laisse la petite sœur passer un peu de temps avec eux. Essentiellement parce qu'ils aimaient la taquiner. Puis, aux premières clopes crapotées, aux premières gorgées de bière, histoire de vanner notre Julie quand elle n'a pas fini de grandir, aux premières lueurs de défi dans ses prunelles lorsqu'elle soutenait mordicus à son frère qu'elle avait déjà fait ça avec ses copines, Eric haussait les épaules. « Fais ce que tu veux, mais t'es responsable de tes conneries. »
À 14 ans, elle portait du bonnet B. C'était beau, et ça changeait le regard des garçons. Les copains d'Eric, qui n'avaient toujours vu chez elle que le sommet de son crâne, louchaient maintenant sur sa poitrine. C'était de petits commentaires.
« Dis donc, c'est qu'elle devient mignonne, ma petite sœur. »
Comme des compliments, mais pas tout à fait.
Hé Lily, y a des garçons qui te draguent à l'école.
Tu sais très bien que je leur embarre tous depuis que tu m'as déclaré ta flamme.
Ah, c'est qu'elle la répartie. Jérémy surtout, auteur du ridicule Lily qu'on lui ressortait chaque fois qu'on voulait la remettre un peu à sa place, la regardait différemment.
Grand, cheveux bruns coupés courts, lunettes d'intello. Jérémy n'était pas massif. Mais il donnait l'impression à Julie d'être grand comme deux fois sa taille, d'avoir des poignets robustes et des mains puissantes qui le rendaient aussi rassurant que dangereux. Un soir, dans la cuisine, pendant que Julie préparait l'apéritif, il l'a frôlée. Elle a bien senti que le contact était volontaire. Le cœur battant, elle s'est sentie rapetissait des kilomètres en dessous de lui. Jérémy a posé la main sur son épaule, l'a pressé doucement.
C'est marrant, il y a 2 ans t'étais encore une môme. T'as un petit ami au collège?
Et doucement, mais avec fermeté, il l'a embrassée.
Jérémy s'est assuré qu'elle lui rendait le baiser. Et elle s'est assurée que la porte était fermée et que personne,
surtout pas Eric,
ne venait dans la cuisine.
Troublée, la nuque raidie, Julie a posé sa tête sur l'épaule de Jérémy. tard, dans la soirée, ils ont fait l'amour.
La première fois escalée. Une équation difficile à résoudre. On peut se tromper d'âge, d'endroit, de personne.
Jérémy était beau, fort, intelligent même.
Mais du point de vue d'Eric, c'était maintenant un enculé qui osait se taper sa sœur. Il s'était pris la tête. Et Julie avait pâti de ce dilemme cornélien, ne voulant prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ou alors pour les deux à la fois. Mais Eric, je m'en branle que tu la joues pas maintenant et que tu fasses ce que tu te plais. N'arrivait pas à l'encaisser. Parce que dorénavant, voir Jérémy, c'était faire défiler un film porno dont son ami était l'étalon et sa petite sœur l'actrice principale.
Julie se pendait au cou de son bien-aimé, pestant contre son frère. Laisse tomber, on est bien tous les deux, non?
Quelques temps plus tard, Jérémy lui a présenté ses propres copains. Et c'était d'un autre calibre. Des mecs avec qui il aimait bien rire, mais à qui il savait ne pas pouvoir faire confiance. À qui il n'aurait pas confié son linge sale.
21 juin, solstice d'été. Encouragés par les vrais premiers jours de soleil, les habitants de Mornay se préparent pour la fête annuelle de la ville.
Ce matin, on pouvait voir les pères de famille aller acheter leurs baguettes de pain en tongs, débardeurs et t-shirts. Ce soir, on lancerait les feux d'artifice devant la mairie. Aux alentours de 22h, les employés du service technique installeront des caissons de basse et des haut-parleurs pour le bal en plein air. Puis, ils dérouleront les cordons de sécurité pour disposer les détonateurs des fusées pour le spectacle pyrotechnique de minuit. Comme d'habitude, des familles se sont portées volontaires pour assurer les animations place du marché, à 50 mètres en haut de la mairie.
Monsieur Vanier, le gérant de Netto, a accepté que des forains installent un carrousel à côté de sa supérette. Ça attire la clientèle. Après un tour de manège, tous les mômes trépignent pour un Coca ou un Mister Freeze parce qu'il fait trop chaud.
Et de l'autre côté de la place, près de la boutique Bis Informatique, Monsieur Luan s'est dévoué pour faire profiter les habitants de son éternel stand de crêpes et de gaufres. Sous la tonnelle, deux seaux de pâtes crues préparées la veille, qui chauffent sous le plomb d'un soleil estival revigoré. Luan a mis ses deux enfants à contribution. Le fils, Eric, accomplit son service de mauvaise grâce, malgré le billet de vin que lui a promis son père en échange du coup de main. « Que voulez-vous ?» dit Luan, toute la résignation de la quarantaine pesant sur ses épaules. « Quand il était gamin, j'aurais pu promettre à Eric un paquet de chewing-gum. Mais les ados, c'est de l'argent qu'ils veulent, pas vrai ?» Ça n'empêche pas Eric de faire la tête. Jovial comme un croque-mort dépressif, grommelant des « jours » pendant qu'il rend la monnaie à l'une de ses voisines.
Monsieur Vanier trouve ce genre de marché sacrément cocasse. Il se souvient d'avoir un jour entendu Monsieur Luan proposer à son fils un paquet de ardoises contre son aide. Et puis, le gamin s'est révélé plus futé que son père en marchandage. L'été suivant, il négociait son effort de guerre contre une canette de leurre. Aujourd'hui, Luan a rejoint cette catégorie de parents qui comprend enfin que l'éducation des enfants, c'est la lutte éternelle et qu'on abandonne vite ses principes pour quelques minutes de calme.
Jusqu'alors, seule Julie, la cadette de Luan, n'avait pas posé de problème majeur. Mais...
Ça ne tardera pas, lui avait assuré Monsieur Vanier avec un sourire compatissant. Aux premières copines qu'elle ramènera à la maison pour autre chose qu'un après-midi bonbon, vous pouvez être sûr que ce sera le début de la fin. En fait, le début de la fin a sa date officielle. Demandez donc à Julie. Même sous le grandiose ciel azur de juin, elle n'a pas pris de couleur. Tout au plus, trois coups de soleil sur les pommettes et sur le nez. Par quelques phénomènes physiques extraordinaires, elle ne bronze plus. La pâte à crêpes a meilleure mine qu'elle.
Deux femmes, Madame Vautier et Madame Lebrun, bavardent en attendant que les gaufres de leurs petits-enfants soient cuites. « Alors, Julie ?» demande Madame Lebrun. « Et l'école ?»«
C'est fini !» répond cette dernière d'une voix polie, mais sans entrain. « Je suis en grande vacances. »«
Eh bien !» s'exclame Madame Vautier. « Tu vas pouvoir en profiter pour sortir avec tes copines ?»«
Sûr !» répond-elle. « Ça fera 2,50 €. »
« Laisse-moi une petite seconde que je fouille dans mon porte-monnaie. »«
Pas de problème. »«
Mince, il me manque juste 10 centimes. »«
Ça ira. Passez un bon après-midi. »«
Oh, merci, Julie. Mes amis, dis à ton père, hein. »«
J'y manquerai pas. »
De Madame Vautier à Madame Lebrun, en s'éloignant du stand. « Je ne suis pas très à l'aise. »« À propos de quoi ? » ?»« Vous savez, parler à la petite Louane... » Après ce qui lui est arrivé.
Et éventuellement, à croire que Julie est devenue sourde. Ce qui lui est arrivé. Il existe un mot pour ça, vous savez. Un petit mot, tout petit, en 4 lettres. Mais, puisque ça vous choque tellement que vous n'osez pas le dire, alors restons-en là, sur cette version. Ce qui lui est arrivé. La chose dont on ne doit pas prononcer l'exacte terminologie s'est produite l'été dernier, peu avant son 15e anniversaire. Depuis, Julie veut passer à autre chose. Mais c'est compté sans les petites attentions des gens. L'info était parue en première page du journal local. Une parodie d'anonymat. Une adolescente de Mornay, victime de viol. Ses agresseurs encourent 10 ans de prison.
En somme, la presse n'en disait pas plus que le bouche à oreille qui s'était envolé comme une traînée de poudre. De l'hôpital jusqu'au lycée, de la classe de la victime dans les autres classes, et de cette même classe jusqu'aux oreilles scandalisées des lotissements où les gosses qui la connaissaient de près ou de loin allaient à leur tour le répandre. En se protégeant de la formule classique.
Je te le dis, hein, mais surtout, ne le répète à personne.
Et ainsi de suite, d'une oreille à une autre, dans celle d'un parent, d'un ami, du frère, d'une fille qui prenait le même bus que la fille anonyme. Une rumeur délétère qui contaminait la ville. Une adolescente, des agresseurs, mais pas de nom. Tout le monde au bahut était au courant de
ce qui lui était arrivé.
Et tout le monde à Mornay savait qu'il s'agissait de Julie Louane et des garçons plus âgés qu'elle, avec qui elle avait passé l'été dernier. En dehors de ça, les circonstances qui entouraient
ce qui lui est arrivé
restaient floues.
Malgré les questions de la police et de son père, elle n'avait pas révélé qui était présent sur les lieux. De son propre aveu, elle avait consommé des substances hallucinogènes, à l'instar de ses copains de beuverie. Son père avait explosé.
Arrête de couvrir ces salauds!
Elle avait expliqué qu'elle ne couvrait personne. Qu'elle ne savait tout simplement pas. Elle ne pouvait pas accuser ces types sans se souvenir de rien. De son point de vue, la logique voulait qu'elle garde le silence. Il lui restait en mémoire le feu de camp dans les bois, les marshmallows qu'ils avaient brûlés dans l'hilarité générale, les mains graisseuses d'avoir fouillé dans les paquets de chips et les knackis qu'on avait piqués sur des tiges de métal. Inutile de détailler le reste. Combien de joints, combien de bières, ce qui était exactement ces petits carrés de carton imprimés et dont Jérémy lui avait recommandé de n'avaler qu'un quart. Et merde, oui, elle s'était droguée. Et elle ne se rappelait pas. Quelqu'un, peut-être Jérémy, avait passé un coup de fil anonyme au SAMU. Les ambulanciers l'avaient retrouvée inconsciente, seule, à moitié nue, à côté d'un pack de bouteilles vides et des cendres tièdes du feu de camp. Elle ne se souvenait de rien.
De toute façon, même si elle avait crié à l'aide, poussé des hurlements de truie, ça n'aurait rien changé. Les gens s'en branlent. S'ils entendent des cris suspects dans la nuit, ils se bornent à laisser errer quelques secondes une oreille attentive. Avant de se dire « Bof, j'ai dû rêver. » Et ils s'indignent le surlendemain, en lisant le journal, de ce dont les hommes sont capables.
Suivant cette logique, elle finissait par en vouloir davantage aux gens qui y témoignaient à soutien hypocrite, plutôt qu'aux auteurs de ce qui lui est arrivé. Alors, les choses s'étaient mises à marcher à l'envers, et pas seulement dans l'esprit de Julie. Son père, dépassé par la situation, prenait des calmants. Quoique elle le pardonnât du fait que sa mère était partie un peu avant ses 10 ans et qu'il ne fût pas doué d'un tact particulier avec les ados, sa réaction avait été plus que dommageable pour Julie que l'agression elle-même. Il avait eu des mots maladroits. Aux prémices singulièrement encourageantes du printemps, elle avait voulu porter des robes achetées en solde une semaine plus tôt.
« Tu comptes sortir comme ça ?» avait dit son père, effaré. « Si tu portes des trucs pareils, faut pas t'étonner que... » Si la vie était un film enregistré en VHS, il aurait tout de suite rembobiné. Sur le moment, Julie avait à peine tiqué, à peine compris l'iceberg immergé sous ce lapsus révélateur. Son père était comme une bonne partie des hommes de la dernière génération, à considérer qu'une femme est toujours, d'une manière ou d'une autre, coupable de s'être faite violer. Il avait tenté d'adoucir la claque. « Je t'ai trouvé un jean super chez Promode, tu l'as essayé ?»«
Papa !» avait-elle répondu dans une vaine tentative de faire bonne figure pour deux. « Il fait 27 degrés dehors !» Elle avait regardé son père. Morné enregistrait des records de température ce printemps et il lui achetait des jeans par camion entier. Si encore cette forme d'inquiétude n'avait eu de répercussion que sur sa garde-robe, Julie faisait semblant de ne pas remarquer ses regards passivement réprobateurs quand elle oubliait sa plaquette de pilules sur le bord du lavabo. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle n'avait plus le droit de devenir une femme? Qu'elle n'était plus propriétaire de son corps? Autant de questions qui la ramenait immanquablement à la nouvelle image que son père se faisait d'elle. Une fille trop gentille, ou trop naïve peut-être, à qui seule revenait la faute d'avoir été bouffée toute crue par le grand méchant loup. Le genre de morale encore très répandue que Perrault avait distillé dans le conte du petit chaperon rouge. Ou plus simplement, « T'as juste été trop bête, ma fille !» Parfois, elle songeait qu'elle aurait pu se remettre de ce qui lui est arrivé si seulement son entourage, à la manière dont un employé obséquieux lèche les bottes de son patron, ne s'était pas montré d'une prévenance si appuyée qu'elle en devenait gênante et douloureuse.
Au collège, les garçons d'habitude entreprenants ne l'approchaient plus. Les plus timides, en revanche, profitaient de la brèche. Kylian, un binoclard qui s'habillait de façon à ce que ses vêtements masquent sa silhouette antisportive, avait même laissé un mot dans son casier.
Elle l'avait évité pendant 2 semaines.
Et 2 semaines durant, Kylian avait baissé la tête en la croisant dans les couloirs. Un comportement qui étonnait Jessica et plusieurs autres filles de la classe. Pour elle, Julie était devenue une victime. Et on sait tous qu'une victime est gentille avec tout le monde et se contente de peu.
Mais à l'exception de la pitié, Julie ne ressentait tout simplement rien pour Kylian. Il était pas moche, hein. En fait, il aurait pu lui plaire. Avec une 10aine de centimètres en plus et un tour de ceinture plus large. Mais les autres le charriaient, le traitaient de crevette. Il était petit et maigre, de tronc, de bras et de jambes, à peine plus en chair que les bonhommes en bâton que les enfants dessinent en maternelle. Après les cours de sport, les garçons chahutaient dans les vestiaires. On balançait Kylian sous la douche, puis chacun le soulevait par la taille comme une vulgaire bourriche.
N'importe quelle fille douée d'un minimum de bon sens aurait évité de sortir avec Kylian. Sympathiser de loin et compatir était suffisant. Mais le bon sens n'a rien à voir dans les relations humaines. Et devant le refus passif de Julie de prendre Kylian à l'essai, les filles de la classe l'avaient trouvé hautaine. « Ce que tu peux être pimbèche !» lui avait reproché Jessica.
« C'est pas contre lui !» s'était défendu Julie.
« Il est gentil et aucune autre fille n'est jamais sortie avec lui. » En plus, une pauvre fille abîmée et une gifle molle, c'est fait pour aller ensemble, non ?
Et demandez donc aux autres filles d'envisager un ciné en compagnie du petit Kylian. A aucun doute qu'il paiera les deux séances et le pop-corn.
Mais t'es cinglé ? Tu me vois me balader avec lui ?
Ah, le regard, les messes basses et l'apitoiement des filles du collège. Toujours de bons conseils. Aux yeux de tous, Julie est devenue une sorte de pestiférée populaire, une oie blanche intouchable, et la table des copines se met à chuchoter quand elle s'assoit à côté de Jessica. On ne bavarde plus, on ne parle plus de maquillage, ni de téléphone, ni de garçon, ni de sexe, ni de...
Putain, j'y crois pas, il t'a embrassé ? C'était comment ?
Baveux.
Chut, la voilà ! Et si on parlait d'autre chose, les filles ? Et si on se levait et qu'on laissait Jessica avec Julie ? Pendant ce temps-là, on ira voir Paul et sa bande.
Il est trop beau !
Devant la grille de l'entrée. Et peut-être qu'il me laissera tirer sur sa clope.
Au collège ? Après ce qui lui est arrivé.
Si t'as besoin de parler, tu sais, je t'ai donné mon numéro.
Un an après.
Pourquoi tu sors pas avec Kylian ? Il est dingue de toi.
2 ans après.
Elle peut pas s'empêcher de faire la tronche, celle-là.
3 ans après.
Mais regardez-la sourire, cette garce. Depuis qu'elle se fait troncher par Paul.
Julie Huan, c'est bien connu, hein ? Elle ne demande que ça. Il arrive un moment où un assemblage de lettres et de phrases choc atteint ses limites. Où la littérature ne sert plus à grand-chose, à part embellir tout ce qui est sale et moche. Vous voulez savoir la fin ? Alcool et médicaments. Ceux qui se sont ratés avec cette méthode vous diront qu'il faut bien calculer son coût. On risque de vomir ce qu'on a ingurgité. Julie a pallié cette difficulté. Après s'être fait couler un bain, elle a pris son temps, presque 2 heures, pour avaler méthodiquement le plus de cachets possible. Calmant en priorité, mais tout ce qui porte un nom avec des X, des Y et des Z dedans fait l'affaire. Tout en buvant à petites gorgées régulières une pleine bouteille de Label 5. Elle a entravé ses pieds avec une ceinture et s'est lié les mains avec un élastique. Alors, elle s'est assise au bord de la baignoire et s'est laissée tomber en arrière.
Son père l'a retrouvée dans la salle de bain, en rentrant du travail. Seules les jambes de Julie émergeaient de la pellicule jaune et grumeleuse de vomi qui flottait en surface de l'eau, comme des algues dans un marécage. Parmi les violeurs, l'un a suivi une formation après sa sortie de prison. Il travaille maintenant comme barman dans une brasserie. 2 autres se sont pris de passion pour les échecs pendant leur incarcération. Ils ont trouvé un mi-temps dans un centre social et apprennent ce jeu à des jeunes du quartier. Quant à Jérémy, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Sérieusement, vous vous attendiez à quoi ?